bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Julien Rosa et Louis Drillon. À la réalisation, Alexandra Longuet, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Bessery.
Troisième jour de notre série consacrée aux économistes de tous bords. Hier, nous avons parlé de l'enseignement et de la recherche ainsi que des querelles de chapelle. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le poids et l'orientation de la parole des économistes dans les médias. Les médias sont l'un des rouages importants de la circulation de la pensée économique. Une pensée qui se heurte souvent à la complexité des concepts et des modèles qu'elle utilise. C'est pourquoi l'économie est soumise dans les médias à plusieurs types de traitements, celui des journalistes, des éditorialistes et celui des experts. Depuis de nombreuses années, les organisations militantes dénoncent une sélection et un traitement arbitraire à la fois des sujets économiques abordés et des intervenants consultés. Alors, certaines actualités sensibles seraient-elles esquivées par les grands groupes de presse et la parole confisquée par un cercle d'économistes devenus experts de la discipline médiatique ? Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour évoquer la parole des économistes dans les médias, nous accueillons aujourd'hui Laurent Mauduit, écrivain, journaliste, cofondateur de Mediapart, auteur de « Main basse sur l'information », publié aux éditions Don Quichotte. Avec nous également Nadine Toussaint-Desmoulins, professeure émérite à l'Université Paris 2, auteur du « Que sais-je, l'économie des médias » aux presses universitaires de France. À 14h50, les nouvelles de l'écho nous seront présentées par Arjuna Andrade. Nathalie Toussaint-Desmoulins et Laurent Mauduit, bonjour.
Nadine. Bonjour.
Nadine.
Bonjour.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, vous allez voir le journal télévisé, votre journal télévisé. Vous n'en reconnaîtrez pas l'indicatif et vous noterez des changements, je pense, dans la présentation et dans le rythme. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Perfit, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal.
D'abord, parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Nous ne réformons pas pour le plaisir de réformer. Nous réformons pour répondre aux souhaits des téléspectateurs. Une majorité écrasante de téléspectateurs veulent plus d'images et moins de paroles, moins de blabla, comme on dit communément. Plus de dialogue et moins de monologue, plus de reportages directs et moins de commentaires sur des dépêches d'agence.
Le fait que la RTF soit sous l'autorité du ministre de l'Information, de vous-même, le fait que vous ayez accepté de venir ce soir avec nous pour inaugurer cette nouvelle formule, est-ce que cela ne va pas être considéré comme une sorte de mainmise du gouvernement sur le journal télévisé ?
Le fait que j'inaugure cette nouvelle formule du journal télévisé ne signifie pas que le gouvernement veut se l'approprier. Le journal télévisé ne doit pas être à la disposition d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêt particulier.
Alors, c'était Léon Zitrone qui interrogeait Alain Perfit, ministre de l'Information de Gaulle, le 20 avril 1963. Et là, on ne peut que constater quelque chose de complètement assumé, en fait, et qui nous renvoie justement à une évolution de l'ORTF. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Nadine Toussaint-Desmoulins, de ce qu'on vient d'entendre ?
Il faut bien replacer cette interview dans le contexte de l'époque. Je crois qu'on est en 1963. La télévision est évidemment dans un monopole public, et de surcroît, il y a très peu de chaînes. Donc, je crois qu'il n'y en a qu'une, d'ailleurs.
Oui, c'est la première chaîne.
C'est la première chaîne, la seule chaîne. Donc, le journal télévisé à cette période est effectivement le journal télévisé. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, la volonté du gouvernement est de changer, sans doute, la présentation de ce journal. Et je crois qu'il faut peut-être que vous l'avez coupé, l'interview de Perfit. Mais Perfit dit, à la suite de cela, le fait que je vienne vous inaugurer le journal ne signifie pas la mainmise de l'État sur le journal. C'est comme quand j'inaugure la construction d'un bâtiment, ça ne veut pas dire que je suis contrôleur de ce bâtiment, que je suis propriétaire de ce bâtiment. Je crois que le deuxième élément de cette phrase, même si on peut en contester la véracité, le fait que quand on inaugure quelque chose, on n'est pas forcément le propriétaire, c'était quand même intéressant peut-être d'avoir rajouté cet élément de phrase.
Alors on pourrait avoir une certaine méfiance quand même à l'égard de ce qui vient d'être dit et de ce qu'on pourrait appeler le conflit d'intérêts. Il nous semble que pour cette émission sur la question du traitement de l'économie dans les médias, il faut d'abord expliquer aussi l'économie des médias et l'industrie médiatique, son fonctionnement, qui explique aussi le traitement qu'on peut avoir de ce sujet-là. Quel état des lieux vous pourriez nous faire, Nadine Toussaint-Desmoulins, de l'économie des médias ?
C'est un vaste sujet, comme dirait l'autre. L'économie des médias subit à l'heure actuelle de très grands bouleversements. C'est-à-dire que si on part justement des années 60, 70, on est dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde actuel du point de vue des médias et de l'économie des médias. Puisqu'on est dans une situation où il y a la presse écrite qui est assez dominante du point de vue des usages et qu'elle est privée, concurrentielle. Et à cette époque, l'audiovisuel, comme je l'ai dit, est public et en situation de monopole. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'économie des médias est complètement changée. D'une part, parce qu'il n'y a plus de monopole, qu'il y a abondance de chaînes, concurrence entre les chaînes, chaînes qui sont majoritairement privées, et qu'on a derrière ces chaînes des propriétaires qui sont des propriétaires appartenant sans doute à des grands groupes qui sont... comme on disait, comme Flichy disait il y a quelques années, le complexe militaro-industriel, des choses de ce type, puisque les principales chaînes, les grandes chaînes, sont contrôlées par des industriels. Donc, et puis, on a l'intrusion de l'Internet qui modifie complètement, qui fait exploser le paysage médiatique et qui propose aux usagers des médias avec un accès gratuit, avec un accès qui n'a rien à voir avec la situation économique des années ante-80.
Alors dans ce contexte, Laurent Mauduit, il semble qu'il y ait une critique qui vienne d'ailleurs de diverses organisations militantes, mais aussi d'une partie des journalistes eux-mêmes, pour dire qu'il y aurait un problème dans le traitement de questions économiques, soit parce qu'elles seraient en lien avec ce modèle industriel médiatique, soit parce qu'elles seraient liées à des conflits d'intérêts.
Oui, ma conviction, c'est que nous vivons une très grave régression démocratique. Si j'avais à résumer les évolutions que nous avons connu depuis la libération, je dirais que il y a eu deux temps. On a vécu une période d'abord de normalisation économique. Certains très grands médias, et notamment les médias écrits, Le Monde, Libération, d'autres, ont perdu leur indépendance. La libération, tous étaient soit sous des formes juridiques de coopératives ouvrières, Le Parisien, Le Courrier, Picard et d'autres, soit sous la forme du Monde.
C'est la modification en fait du modèle économique de ces journaux-là qui leur a fait perdre en indépendance d'abord.
La perte d'indépendance, qui était le bien que revendiquaient tous les grands intellectuels de la libération. Albert Camus et d'autres. Et de cette normalisation économique a découlé, ce qui est gravissime, une normalisation éditoriale ou une violence éditoriale qui a pris des formes multiples. Soit des formes de censure, certains grands groupes se constituant, il y a une forme de désinhibition. Je veux dire, Le Parisien censure la critique d'un journaliste du documentaire Merci Patron. Et puis, il y a aussi des systèmes beaucoup plus pervers, parce que plus difficiles à mesurer, qui sont l'autocensure. Là, je vous le dis comme ancien responsable des pages économiques entreprises du Monde, quand j'observe ce que sont devenues les pages du Monde ou ce que sont les Échos, par exemple, observez, comparez, par exemple, ce qu'est la presse économique anglo-saxonne et ce qu'est la presse française. La presse française est victime de deux mots. Un, l'affairisme. On en parlera. Le fait que la presse est la propriété de gens dont la presse n'est pas le métier.
Alors ça, il faut peut-être en parler. Est-ce qu'il y aurait une spécificité française par rapport à d'autres pays anglo-saxons ?
Nous avons des groupes de presse qui sont... pour certains, contrôlés par des gens qui ne sont pas des gens de presse.
Tous.
Non, tous. La presse de province, la presse quotidienne de province est encore souvent très familiale.
Le Courrier Mutuel possède tous les régionaux de l'Est, Bernard Tapie possède la Provence, ce ne sont que des oligarques.
Oui, mais vous avez quand même la famille encore Le Moine, vous avez encore vous avez encore Ouest-France, qui n'est pas rien.
Le Moine, c'est quand même
le quotidien. Il reste quelques exceptions.
Oui, il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions qui ne sont pas négligeables, qui sont encore des entreprises pour la presse quotidienne. quotidiennes régionales, à part évidemment le cas du Crédit Mutuel, qui sont aux mains des familles qui sont des familles traditionnelles, Bayley, Le Moine, etc. Il y a évidemment... Et alors là où je voudrais tempérer ce qui a été dit, lorsque on pense qu'il y a une perte de démocratie, moi je viens de dire dans ma première intervention un peu le contraire, c'est-à-dire que on a maintenant une explosion des médias et l'exemple même de Mediapart dont monsieur participe ou d'autres médias, ce qui viennent de se créer, montre qu'on a au contraire une émergence de médias qu'on n'a jamais connue avant.
En tout cas, un retour à une autre forme qui serait des médias qui auraient directement accès à leurs lecteurs avec des modèles
comme celui de Mediapart. Si je peux me permettre, Mediapart a réussi son pari économique, mais nous sommes des petits hurons dans le paysage global de la presse. Et donc, ce qu'a vécu ma génération comme journaliste, moi je l'ai vécu d'abord à Libération et ensuite je l'ai vécu au Monde, ça a été la perte d'indépendance. Moi je quitte Le Monde parce qu'on me censure sur une enquête financière, sur une banque. Mais prenez un exemple, l'exemple des Échos. Vous vous souvenez quand les Échos est racheté par Bernard Arnault en 2007, hein, c'est Nicolas Sarkozy qui annonce à une délégation de journalistes avec gourmandise qui sera leur directeur de la rédaction. Il y a une révolte déontologique, une rédaction qui n'est pas rebelle du tout, qui se révolte en disant « mais comment voulez-vous qu'on fasse honnêtement notre travail dans un journal qui est la propriété du premier PDG français, propriétaire du LVMH, donc premier annonceur publicitaire de la presse, qui par ailleurs contrôle Carrefour ?» Il dit « c'est impossible ben, !» Ils ont perdu la bataille. Et donc du coup, si vous comparez ce qu'est les Échos, ce que sont les Échos par rapport à la presse financière anglo-saxonne par exemple, le Wall Street Journal ou le Financial Times, dans ces pays-là, dans une culture politique qui n'est pas la même que la culture française, qui est une culture présidentialiste, la culture française, il y a une tradition d'investigation dans ces journaux qui, par ailleurs, idéologiquement, sont néolibéraux. Oui. Mais il y a une culture de l'enquête, des grandes enquêtes sur des banques, sur la finance. Vous les trouvez dans ces journaux. Dans les Échos, non. C'est un journal. Ils ont perdu la
bataille,
malheureusement.
Alors, on parle des Échos, mais on pourrait parler d'autres.
D'autres, bien sûr.
De chaînes de télé, aussi bien d'ailleurs de presse écrite que de radio privée ou de chaînes de télévision privée. Nadine Toussaint-Desmoulins.
Oui, mais ça, c'est le vieux débat. Je suis désolée de faire toujours référence au passé. L'opposition entre les rédactions et les directions est quelque chose d'ancien, puisque c'est à partir de cette opposition que Schoebel avait demandé à ce qu'il y ait un pouvoir économique sur les entreprises de presse qui soit accordé aux rédacteurs avec les sociétés de rédacteurs.
Précision pour ceux qui nous écoutent, Schoebel, c'est le premier président de la Société des rédacteurs du Monde, qui fait un livre formidable, La presse, le pouvoir et l'argent, il y a 20 ans, qui vient juste d'être réédité. Il y a une préface de Paul Ricoeur et une deuxième préface d'Edoui Plenel. Et donc, c'est le premier qui explique pourquoi la rédaction du Monde, à l'époque, en 1952, se constitue comme une rédaction qui est le propriétaire de son journal.
Une fraction du journal.
Et Beuve Méry le dit, pour quelle raison ? Simple, ne pas avoir de fil à la patte. Ne pas être dépendant de l'épicerie. En clair, que le journal ne soit pas impacté par des pressions politiques ou financières.
Alors, il y avait eu des tentatives pour légiférer en ce sens. En 84, il y avait une loi qui avait émergé contre la trop forte concentration et qui était pour le pluralisme des médias, mais qui a été tout de suite abrogée en 86.
Oui, alors, la loi de 84, qui était dite loi Hersan, puis, enfin, la loi 86 ensuite. Donc, là, nous abordons un autre problème que j'évoquais un petit peu, qui est celui de la concentration des médias. Alors, la concentration des médias, pour faire simple, elle oppose deux idéologies, entre guillemets. La première, c'est celle qui consiste à dire les médias sont des produits comme les autres, sont des produits industriels, des prototypes qui sont dupliqués pour la presse, une culture de flot pour la télévision. Donc, c'est quelque chose de cher. Donc, il faut avoir de l'argent. Il vaut mieux donc avoir des grosses entreprises. Et pour que ces entreprises soient rentables, il faut qu'elles puissent faire de la concentration verticale, contrôler leurs fournisseurs, contrôler leurs distributeurs. Donc, dans une logique de gestion, on dit la concentration, c'est une bonne chose, il faut des grands médias, il faut des grands groupes comme il y en a en Allemagne, Bertelsmann, comme il y en a en Angleterre. Et puis il y a l'autre courant qui consiste à dire, plus il y a de concentration, plus les propriétaires ont du pouvoir, et plus ils ont du pouvoir, plus ils vont impacter l'autre fonction qu'ont les médias, qui sont d'être les propagandistes de la démocratie, du pluralisme.
Surtout,
et donc il faut du
pluralisme.
Surtout
si plusieurs titres sont détenus par le même groupe.
Voilà, alors donc...
C'était ça qui était visé.
Oui, mais déjà, Il y a la fameuse ordonnance tout de suite après la libération qui voulait empêcher que quiconque puisse contrôler plus de deux quotidiens. Les ordonnances de 44 qui n'ont pas été mises en pratique parce qu'il n'y a pas eu les décrets d'application. Donc ça, c'est un vieux serpent de mer qui consiste à dire, d'un côté, il faut des grands groupes parce que c'est plus rationnel. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent les grands groupes, les oligopoles, portent atteinte au pluralisme. Et puis, ça, c'est deux positions qui sont inconciliables.
Et Laurent Mauduit, il y a une autre évolution peut-être qu'il faut raconter, c'est que l'économie de la presse a évolué en même temps que le capitalisme et donc a évolué aussi avec un système d'actionnaires.
Oui, enfin, vous savez, le capitalisme français est assez particulier. Hein. Pierre Rozon Vallon, donc le prof d'histoire au Collège de France, l'explique bien pour le Second Empire. Hein. Les mots qui pèsent, je l'ai dit tout à l'heure, sur la presse, c'est l'affairisme et c'est le présidentialisme. C'est un système politique où tout est construit sur le face-à-face entre le monarque républicain et le peuple, et tout ce qui s'interpose n'a pas de légitimité. Donc, dans la presse française, la presse n'a pas la légitimité démocratique qu'elle a aux États-Unis, dans la culture, Thomas Jefferson, etc. Ou Premier Amendement, c'est la valeur fondatrice de la démocratie américaine. Et donc, dans la culture française, et c'est toujours le cas, c'est pour ça que l'extrait qu'on a écouté au début me semble, moi, contrairement à ce que mon vis-à-vis était à l'heure, est une profonde actualité. La presse n'est pas légitime. Et regardez toutes les formes de presse. Regardez le dernier entretien du chef de l'État actuel avec le présentateur de France 2. Vous êtes dans un système monarchique. Et ce système d'allégeance de la presse ou de tutelle est encore plus fort sur la presse économique. Et je le trouve.
Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, pour illustrer ce que l'on vient de dire. On va écouter justement Nicolette Taverneau, interviewée par Maïté Nabiramen sur le plateau du supplément de Canal+. C'était le dimanche 31 mai 2015.
Je n'ai pas le sentiment qu'en 27 ans, il y ait une pression politique sur l'antenne.
Mais vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je ne sais pas, de Capital, par exemple, en disant faut qu'on parle de ça.
Non, alors ça, ce n'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions.
Au moins, c'est clair.
Ouais, au moins, c'est dit.
Nous vivons de nos clients et je leur dis, par exemple... Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il y avait une émission de Capital sur la téléphonie. Bon, nous sommes partie prenante puisque nous faisons M6 Mobile.
Bien sûr.
Très gros succès. Avec Orange. Je leur ai expliqué, si on fait une émission sur la téléphonie, forcément, on va dire, si elle est bonne pour Orange, on dira, on comprend. Si elle est mauvaise pour Orange, on va se fâcher avec notre client. Donc, il n'y a pas de bonnes émissions. C'est comme, on ne peut pas faire une émission facile pour nous, qui sommes propriétaires de Bordeaux, sur Marseille. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter.
Du coup, faut le savoir, quand on est journaliste et qu'on vient sur le groupe, dans votre groupe, voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées à traiter que d'autres.
Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à traiter d'autres. Moi, je le dis avec beaucoup de clarté. Et je pense qu'on a une très grande liberté pour traiter beaucoup d'autres choses. On n'est pas obligé... Je veux dire, la téléphonie, c'est pas un thème unique. Vous voyez, on peut traiter énormément de problèmes qui ne sont pas la téléphonie. Et il y a d'autres médias qui pourront le traiter encore mieux que nous.
Alors là, Nadine Toussaint-Desmoulins, on voit quand même le glissement possible et la critique possible, à savoir le modèle économique du médium lui-même et les clients qui sont les siens l'empêchent donc de traiter une partie des sujets économiques.
Je ne le conteste pas. Tout cela provient du mode de financement des médias. Parce que les médias, j'ai dit précédemment que les médias sont des biens industriels ordinaires par certains aspects. Mais par d'autres aspects, ils ne le sont pas du tout. Et ce que les économistes des médias ont mis en lumière, c'est une banalité de le dire, c'est le double marché des médias, de certains en tout cas, puisque certains n'en ont qu'un. Le double marché, c'est quand ça existe vraiment, le marché des acheteurs pour la presse, les gens qui payent pour acheter un journal, et le deuxième marché, qui est le marché de la publicité. Bon, alors ça date d'il y a très longtemps.
Est-ce que le lecteur est un consommateur, etc.
Et ces deux marchés sont liés, c'est-à-dire que plus il y a d'acheteurs, plus il y a d'annonceurs. Bon, ça fait une spirale. On a dit que c'était une spirale qui peut être, soi-disant, favorable du point de vue économique, j'entends, mais pas forcément, effectivement, du point de vue du contenu. Parce qu'à partir du moment où vous êtes tributaire d'un de vos financiers, et notamment de la publicité, vous êtes évidemment... entraîné à ne pas dire du mal de votre client, comme il dit. C'est-à-dire que si vous recevez un financement par des annonceurs qui sont trop présents dans votre média, vous ne pouvez pas les critiquer. Je ne dis pas le contraire.
Alors c'est quoi les trois piliers? C'est l'indépendance des journalistes, c'est d'une information de qualité, c'est l'objectivité, l'indépendance, le pluralisme. Laurent Mauduit, là on parle de pression économique. Alors la nuance entre
pression économique.
Je reviens à ce qu'était le principe démocratique de la Libération, ériger une muraille de Chine entre les puissances financières et les rédactions. C'est ça le principe, hein, le programme du Conseil national de la résistance, c'est ça que tous les journaux ont cherché à organiser. On a perdu cette muraille de Chine, elle est tombée avec les menaces que l'on voit, des censures, ce que dit Taverneau, et ce que font tous les autres patrons de presse. Mais à ces menaces traditionnelles de censure, Bernard Arnault qui supprime la pub Libération, qui fait une manchette « Casse-toi, riche con », vous vous souvenez, s'ajoutent maintenant des phénomènes nouveaux, liés à l'émergence des géants de l'Internet américain. Je vous donne un exemple. Facebook, par exemple, maintenant finance la presse française pour qu'elle vérifie certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Un, ça place les journaux maintenant qui ont quémandé de l'argent public pendant des années, dans une situation de mendicité. Maintenant, ils font la manche, ils tendent la main à l'égard soit de Google, soit de Facebook. C'est pernicieux parce qu'ils perdent leur indépendance, mais aussi, ça a une conséquence éditoriale qui est gravissime. C'est que les journaux qui s'y prêtent, il y en a 8 en France, dont Libération et Le Monde, ça veut dire qu'ils enferment une partie de leur rédaction à vérifier des informations qui sont dans la bulle du buzz. Alors que pour moi, la qualité...
Donc ça a modifié les structures même du journalisme
métier,
et du métier.
C'est-à-dire que le cœur de l'indépendance professionnelle du journalisme, c'est d'être maître de son agenda, choisir les sujets que l'on considère comme importants. Et donc là, c'est les enferme dans une bulle qui est celle que les algorithmes de Facebook choisissent comme pertinent.
Alors il y a aussi un mystère économique là-dedans, c'est que c'est quand même un secret de polichinelle que de dire que les médias ne sont pas l'entreprise la plus rentable qu'ils soient, notamment le secteur de la presse écrite, et pourtant les grands groupes investissent dans ces médias. Alors pourquoi, si ce n'est pour une forme d'influence?
Ça, c'était constaté il y a fort longtemps. Encore une fois, les historiens des médias vous diront que il y a toujours eu une volonté de posséder comme une danseuse. C'est toujours la référence qu'on fait. Certains voulaient contrôler, avoir des danseuses. Les journaux ont été les danseuses de certains hommes, de Boussac, de Coty, Donc il y a eu, pas le Coty le président de la République, mais Coty l'industriel, il y a toujours eu cette volonté...
Le fasciste, pour dire vrai.
Oui, exactement. Cette volonté de contrôler un média...
Pour que ceux qui nous comprennent, Coty, c'était le propriétaire du Figaro dans les années 20, qui était un parfumeur d'extrême droite, l'un des fondateurs d'une des ligues, voilà.
Voilà, oui, oui. Et donc il y a toujours eu cette volonté de contrôler des médias. Alors, certains disent que c'est parce qu'il y a des hommes d'affaires qui ont des égos surdimensionnés, ça leur fait plaisir d'avoir un journal qui perd de l'argent. On a de multiples exemples de gens qui mettent de l'argent dans des médias où ils perdent de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui relève, je dirais, presque de la psychologie, c'est-à-dire contrôler un journal
ou de
pour le plaisir d'avoir un journal. Alors, il y a certains...
La réputation, l'image, il y a aussi tous ces critères-là qui sont difficilement quantifiables en économie, mais qui jouent
d'autant,
sur une entreprise.
D'autant que le contrôle de certains médias par rapport à leurs autres activités représente peanuts. C'est-à-dire que, par exemple, pour Bouygues, même TF1, c'est pas grand-chose par rapport à son activité économique. Pour Arnault, les Échos, c'est rien du tout. Donc, si vous voulez, c'est l'idée d'avoir un média et de pouvoir peut-être être près d'influencer les orientations politiques. La presse quotidienne régionale dont je parlais tout à l'heure, avait en tout cas dans le temps une très grosse influence sur les élections. Et donc, être propriétaire d'un grand quotidien de province, c'était important du point de vue politique. Ça l'est sans doute moins maintenant, parce qu'il y a justement, comme je le disais tout à l'heure, là, mon opposition avec mon voisin d'en face, fait qu'il y a de très nombreux médias qui peuvent critiquer. À commencer par des sociétés comme Acrimed, par exemple, qui critiquent les médias.
Alors, Laurent Mauduit, il y a donc d'un côté cette économie des médias qui laisse un peu la porte ouverte, justement, d'un point de vue de la critique. Mais que dire aussi du traitement de l'économie dans les médias? Est-ce que c'est un sujet médiatique comme un autre, l'économie? Ou est-ce que, de par, justement, les intérêts des uns et des autres, c'est un sujet plus sensible?
Moi, je l'ai vécu de manière assez douloureuse parce que je suis journaliste économique. Ça a été ça ma carrière, et j'ai toujours eu le sentiment que l'économie n'était pas une science exacte, mais l'une des branches des sciences sociales dont la richesse ne dépendait que du pluralisme de ses approches. Il y a des courants de pensée multiples, schumpeteriens, keynésiens, marxistes, néolibéraux, voilà.
Alors ça, c'est une des premières questions qui est abordée. C'est est-ce que le paysage médiatique est l'une des courroies de transmission entre la pensée économique et les citoyens?
Ouais.
Est-ce que la presse fait son travail dans ce domaine-là, et de représenter ce qui existe en termes de
courant? La presse aurait dû avoir, a fortiori, compte tenu de ses caractéristiques, une obligation de mettre en scène, dans le débat public, ce pluralisme. Or, l'aspect qui est très très choquant, me semble-t-il, c'est que dans le prolongement de la vague néolibérale du début des années 80, qui nous submerge, toute la presse française, quasiment toute sans exception, se convertit. Et en plus, d'une manière assez peu élégante, parce que si vous regardez bien les économistes dont la presse le plus souvent fait la promotion, ce sont des néolibéraux, mais il y en a de talent.
Alors
mais...
là, il faut peut-être expliquer ce qu'on dit quand on parle d'économistes. Il y a d'un côté les journalistes économiques, qui prennent en charge une partie de l'information.
Ouais.
Il y a les éditorialistes, il y a les experts.
Ouais.
Et dans les experts...
Il y a une confusion, parce que c'est vrai qu'il y a des... Moi, je ne me considère pas comme économiste. Ça fait 40 ans que je fais ce métier, mais je suis journaliste. Je cherche, je fais des enquêtes sur l'économie, mais moi, je ne suis pas expert. Alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui, je trouve, et c'est une faute professionnelle, ont glissé, se sont présentés eux-mêmes comme des économistes, comme des experts. Nous ne sommes pas experts. Et donc, moi, ce qui je trouvais
donc
assez...
Donc, de quels économistes vous parlez, quand vous
Alors,
parlez des économistes
je trouve
des journalistes.
L'aspect assez choquant, c'est que la plupart des gens qui parlent avec cette casquette d'universitaire le plus souvent dans les médias, sont souvent, le plus souvent, ceux qui se sont transformés dans le courant des années 2000, non plus en économiste, mais en lobbyiste. C'est-à-dire des gens qui ont caché que derrière leur casquette universitaire, ils étaient appointés par des banques, par des compagnies d'assurance. Et donc, du coup, les journalistes ont eu une double responsabilité de ne promouvoir qu'un seul courant de pensée, sans dire par ailleurs que ceux qu'ils invitaient avaient par ailleurs des intérêts à parler. Dans le livre que j'avais écrit à l'époque, Les imposteurs de l'économie, je l'avais beaucoup documenté. Daniel Cohen, qui est le prof d'économie de l'École normale supérieure, donc l'un des lieux d'excellence de la recherche en économie en France, a longtemps caché qu'il était par ailleurs senior advisor de la Banque Lazare.
Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de noms qui sont évoqués par un certain nombre d'organisations.
Alors c'était le cercle des économistes, qui est la communauté la plus connue, et ce sont le plus souvent des économistes, enfin je ne parle pas de Daniel Cohen, je parle du cercle des économistes, qui le plus souvent ont tellement versé dans les mondanités parisiennes, dans le travail de lobbying, qu'ils ont cessé de travailler. Ils ont cessé d'apporter des productions intellectuelles.
Alors ça, c'est votre point de vue, ça ne concerne peut-être pas tout le monde.
Oui, non, mais regardez un Thomas Piketty, il travaille pendant 5 ans, et il sort de sa boîte une fois tous les 5 ans quand il a fait un travail dont il considère qu'il doit en parler. Le président du cercle des économistes, peu importe son nom, il papote toute la journée dans tous les médias.
Piketty, on l'entend quand même beaucoup dans les médias.
Nadine Toussaint-Desmoulins, on n'est pas là pour faire le procès de certains économistes en particulier, mais la question que l'on pose, c'est aussi comment est-ce que la presse, qui est prise quand même aussi dans des intérêts économiques forts, qu'elle soit d'ailleurs surtout dans le domaine du privé, mais aucune garantie n'est faite non plus dans d'autres domaines, comment est-ce qu'elle peut satisfaire à sa déontologie d'un côté, dans le choix des sujets, dans le choix des intervenants, et en même temps subvenir à ses besoins économiques.
Alors je crois que là, effectivement, il y a un problème, c'est que l'économie, alors là je me place du côté de l'analyse universitaire, l'économie n'est pas un sujet de prédilection des consommateurs de médias. Je suis désolée de le dire, moi-même je suis économiste de formation, donc il a fallu dans certains journaux que pour que l'économie devienne attractive, qu'on aille vers des sujets qui soient, on va dire, vendeurs et qu'on s'intéresse à des choses qui ne sont pas forcément des choses de l'analyse économique. Et vous parliez tout à l'heure, monsieur, des différentes courants de pensée économique. Donc c'est difficile à la fois de faire de la formation à ce qu'est l'économie, ce qui est parfois ardu, qui est parfois décourageant, qui fait que les gens ne le lisent pas. Vous savez qu'on connaît les goûts des lecteurs et les goûts des auditeurs. C'est pas les informations économiques qui sont leur goût prioritaire.
Alors ça dépend dans quel domaine, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, il y a tout ce qui est actualité économique.
Oui, alors pour rendre cette économie attractive, effectivement, les journalistes, à mon avis, donc là je fais la critique des journalistes, se sont souvent retranchés derrière les experts dont vous parliez. Alors, les experts, entre guillemets, c'est la même chose dans d'autres domaines, comme on fait venir toujours les mêmes médecins, comme on fait venir toujours les mêmes intervenants. Les journalistes, à mon avis, ont eu le tort de se retrancher derrière les experts. Alors après, on découvre que les experts ont des liens, ne sont pas aussi indépendants qu'ils veulent bien le dire, je suis d'accord. Mais ce recours accentué à des experts fait que, à mon avis, les journalistes ont perdu effectivement de leur capacité à traiter des sujets.
Question gun et machicoulis, un chial vaut 2000 hoplites. Mais au rayon philosophie, on est resté chez Démocrite. On joue les chasseurs d'arc-en-ciel, meublés chez Stark et compagnie. Mais on sort d'un vieux logiciel, made in Neanderthal City. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiocrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiocrité. Dans le grand jeu des anonymes, la fiction s'adoube au virtuel. On s'additionne, on chat, on frime, elle on se soustrait au réel. Baiser grave et manipulé devant nos écrans de Facebook. On n'a qu'un pseudo pour rêver et s'inventer un autre look. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité, frères humains, frangins tannés, sous la plage, y a les pavés. Médiocratie, médiacrité, des pavés bien intentionnés pour un enfer climatisé. Médiocratie, médiacrité. Devant toutes ces news qui nous saoulent, ces flashs qui nous anesthésient, DJ God a perdu la boule et mixe à l'envers nos envies. Devons-nous croire à un réveil dans l'au-delà des jours fériés, avec la photo du soleil brillant sur nos calendriers. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Je crois, moi c'est souvent ce que je dis à ceux avec qui j'ai un débat d'idées, je leur dis écoutez, si je me trompe, montrez-le-moi, et si je ne me trompe pas, écoutez-moi. C'est-à-dire quand on écoute la différence, on s'enrichit de toute façon. Moi je suis entouré que de gens qui ne pensent pas comme moi, y compris sur les 35 heures. Disons-le franchement, dans les manuels d'économie aujourd'hui qui circulent, il n'y a qu'un seul point de vue. Il n'y a pas de pluralisme. L'entreprise est comme trop souvent présentée, même presque systématiquement, comme un lieu d'exploitation. Le travail marchandise, etc. La mondialisation comme une menace. La concurrence sauvage des pays à bas salaire. Il y a tout un vocabulaire, si vous voulez, très porteur d'idéologie. En tout cas. Ça ne me dérange pas, mais à condition qu'il y ait le pluralisme dans les points de vue proposés. Et ensuite, chacun fera son marché comme en politique, finalement. Au moment où on vote, on se crée son opinion en développant des anticorps. Mais si on n'a qu'un seul message, c'est très dangereux, parce qu'on on découvre. Moi, j'ai vu... Vous savez, quand je suis intervenu plusieurs fois en Amérique latine et quand j'ai raconté à certains étudiants brésiliens que finalement c'est eux-mêmes qui se tiraient leur propre balle dans le pied, que c'était pas, ils n'étaient pas exploités seulement par les multinationales et que la faute à leurs problèmes, c'est ça venait aussi de leurs incohérences internes de politique, ils en pleuraient parce qu'ils disaient « mais c'est pas possible, si c'était vrai on nous l'aurait dit ». Parce qu'il y a une espèce de mensonge collectif, et là les économistes ont une responsabilité, comme aussi les médias. Bon, il faut bien dire que la plupart des journalistes qui s'occupent d'économie et de société sont plutôt des gens qui s'occupent de la société plus que de l'économie.
Alors c'est Michel Godet qu'on entendait dans Rue des Entrepreneurs sur France Inter le 17 mars 2007. Laurent Mauduit, donc là c'est un économiste libéral qui parle et qui a accès très régulièrement aux médias. On a le sentiment que les économistes plutôt de droite, politiquement, etc. vont dire que finalement on s'occupe que de société, que les économistes de gauche vont dénoncer les libéraux. En tout cas, tout le monde se plaint des partis pris et du manque de pluralisme. Alors la question c'est aussi d'où on parle.
D'où on parle. Oui, alors écoutez, je vais donner un exemple sur le ministère des Finances. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, à la direction de la prévision, au ministère des Finances, il y avait des gens de gauche, de droite, des hauts fonctionnaires, et quand ils avaient une recommandation à faire au ministre, souvent ils s'engueulaient entre eux, et souvent ils faisaient deux ou trois notes différentes. Ce qui réhabilitait le rôle du politique, parce que le politique, du coup, avait des choix multiples qu'il suggérait, il arbitrait. Ça n'existe plus depuis longtemps, et cette fameuse direction de la prévision a été supprimée en 2005, ce qui dit tout à fait, ce qui dit beaucoup de la rétraction vers une pensée unique.
Donc c'est quoi? C'est une homogénéisation? Est-ce que l'économie est un domaine subjectif dans les médias?
C'est-à-dire ce qu'on vit maintenant, la pensée dominante, c'est celle qui a résumé le fameux pamphlet que j'ai trouvé très agressif, qui était le négationnisme en économie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. Il y a des vérités scientifiques établies par l'économie. Ce qui n'est pas vrai. L'économie, je le dis, c'est la part de choix des hommes. Donc il y a des courants de pensée multiples. Ensuite, il y a les politiques qui sont adaptées ou qui ne le sont pas. Mais c'est la part des choix. Et cette conception très tyrannique a prévalu dans le monde des économistes. Hein, je dirais, les économistes hétérodoxes sont écrasés dans le débat, ils sont écrasés dans la cooptation des profs d'université, et ils sont écrasés dans les médias. Regardez une émission, on ne va pas personnifier, mais c'est dans l'air. Vous n'avez que les économistes, quasiment que. De temps en temps, vous entendez le très talentueux Benjamin Coria qui, une fois de temps en temps, arrive à se faire une petite place. Autrefois, avant qu'il soit assassiné, vous entendiez Bernard Maris. Mais honnêtement, il suffit d'écouter. N'importe quel journaliste de bonne foi ou observateur dira que ceux qui parlent, ceux que les médias promeuvent, c'est le courant mainstream.
Alors ça pose presque la question, Nadine Toussaint-Desmoulins, de la concurrence des autres médias aussi, puisque un certain nombre d'associations militantes, vous évoquiez Acrimed, il y en a d'autres, Plan B, etc., vont faire un certain nombre d'études documentées, chiffrées, même si elles ne sont pas neutres, elles ont un parti pris fort, mais vont faire des études chiffrées sur la teneur des discours économiques dans les médias. Donc c'est comme si cette critique-là devait être faite de l'extérieur.
Bon, elle n'est pas faite de l'extérieur, puisqu'elle est faite par des associations qui sont peut-être pas, ce sont pas des journaux, des radios ou des télévisions, mais qui sont présente maintenant, grâce encore une fois à Internet, et qui font que si on veut entendre d'autres voix, on peut. Je suis d'accord qu'effectivement on a tendance à avoir des économistes mainstream, dans les émissions de télévision des grandes chaînes, mais on est quand même heureusement dans un pays où on peut quand même entendre des voix divergentes et qui permettent de se faire un jugement.
Alors il y a une autre question, c'est aussi le parti pris des journalistes éditorialistes. Ça c'est une autre question qui est pointée par ces organisations. Les sujets économiques inondent les médias. Nadine Toussaint-Desmoulins, vous nous disiez que ce n'était pas forcément le sujet préféré des lecteurs et des auditeurs, mais de par l'évolution de la politique et des politiques économiques, c'est aussi un sujet qui est devenu central.
C'est voyant, donc il y a l'aspect partisan, parti pris, la SNCF, évidemment il faut la privatiser. Hein, donc ça, Acrimed excelle dans ce genre de recension des positions. Et moi, il y a une chose encore beaucoup plus grave. Je trouve comme évolution qu'il faut pointer, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le rôle de la presse, c'est comme la presse a perdu ce repère qui est l'enquête indépendante, il y a un aspect de... Moi, dans mon métier, je trouve le plus important, c'est pas tellement les idées, c'est de promouvoir les faits qui font réfléchir les citoyens. Et c'est vrai aussi en économie. Je vous donne un exemple, c'est immodeste parce que je vais vous parler de moi. Moi, j'ai écrit 10 ou 12 articles sur un scandale bancaire majeur en France, qui est le scandale de la banque Natixis, qui est la plus grande banque d'investissement en Europe, banque française. Et j'ai pu écrire ce Mediapart sans être poursuivi en diffamation. Cette banque a lésé plusieurs millions d'épargnants. Aucune reprise, aucun média, même pas une brève. Il a fallu attendre finalement que l'autorité des marchés financiers sanctionne historique, 30 millions d'euros pour qu'enfin il y ait des petites brèves dans les journaux économiques. Et donc ce repère qui est l'enquête, donner à voir aussi, je veux dire, c'est une question majeure. Est-ce que le mécanisme qui a conduit à la crise financière, est-ce que ces mécanismes sont surmontés ou est-ce qu'ils sont toujours à l'œuvre? Et donc il y a un défaut d'information des citoyens en matière économique qui est très fort.
Oui, mais alors, vous venez de dire vous-même qu'il n'y a eu aucune reprise de l'enquête que vous avez faite. Pourquoi il n'y a pas eu de reprise? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les patrons des médias n'ont pas voulu que les journalistes le fassent? Ou est-ce que c'est parce que vos collègues journalistes n'ont pas voulu le faire?
La réponse est simple. C'est que l'écosystème de la presse française, oppressé par à la fois les puissances financières et un système politique assez peu favorable, qui a créé notamment un délit de violation du secret des affaires. Vous avez vu qu'il y a un journal récemment qui a été condamné pour cela. C'est Challenge qui a révélé des informations sur un groupe. Eh bien, tout ça conduit à des formes d'inhibition. C'est on est contrairement.
Donc il y aurait la censure assumée, il y aurait la censure plus officieuse.
D'autocensure, je veux dire, c'est dur de faire de l'enquête dans un écosystème qui est très rétif à cela, avec un actionnaire qui vous surveille. Et attendez, quand Arnaud rachète les Échos, c'est au mois de juin 2007, la rédaction comptabilisent qu'ils ont, depuis le début de l'année, parlé à plus de 300 reprises de ce Bernard Arnault. Ils disent, mais attendez, on va continuer, comment voulez-vous qu'on le fasse librement? C'est inconcevable. Non, c'est ce système qui fait que Taverneau dit, vous ne parlez pas de mes clients, Niel dit la même chose. Donc, comme on est dans un système de capitalisme de la barbichette, je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels, du coup, tout le système est verrouillé.
Capitalisme et la barbichette, mais c'est vrai qu'on pourrait revenir là-dessus. En ce qui concerne aussi les experts et les économistes, on parle d'un petit cercle, toujours le même, qui serait d'ailleurs, qui exclut presque à l'unanimité les femmes, il y en aurait très peu dans ce cercle, qui serait presque unanimement pour une pensée relativement mainstream. Alors, est-ce que cette critique est vraie? Est-ce qu'elle est partielle? Vrai. Est-ce qu'elle est exagérée?
Non, elle est profondément... regardez les grandes émissions de radio et de télévision, le constat est imparable.
C'est les économistes stars?
C'est pas star, c'est les économistes... c'est un système très parisien. Le star des économistes, c'est à la fois celui qui distribue les places dans les médias parisiens. Il organise son grand round, son grand cocktail pendant 5 jours à Aix-en-Provence avec la moitié du CAC 40, du milieu des affaires. Ils vivent en consanguinité, comme ces économistes travaillent dans les banques. Et voilà, donc ils vont au concert ensemble à Aix. Et donc c'est un système consanguin. Il y a quelques économistes qui détiennent un monopole de l'expression publique.
Nadine Toussaint-Desmoulins, c'est une critique qui est régulièrement faite, celle-là, que de dire qu'il y aurait toujours des conflits d'intérêts.
C'est pas alsacien.
Non, je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours des conflits d'intérêts, mais je crois effectivement qu'il y a un certain nombre de, on va dire, de consanguinité, de connivence entre certains journalistes. Il faut le dire quand même. Moi, je trouve que les journalistes ne se rendent pas toujours compte qu'effectivement, on sent que de leur côté aussi, il y a des connivences avec les hommes politiques, avec les chefs d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est quand même dommage du point de vue de la déontologie journalistique, qui fait que, encore une fois, les journalistes sont quand même en partie responsables du phénomène que vous décrivez.
Alors, les accointances qui ne seraient pas nécessairement des conflits d'intérêts financiers purs, comme le fait de travailler aussi dans le privé, etc., mais qui seraient parfois simplement idéologiques ou une sorte d'unanimité sur la théorie économique. Je pense notamment au fait qu'il puisse y avoir un certain nombre d'adhésions sur les questions, notamment de la construction européenne, les questions de mondialisation. Laurent Mauduit,
il y a tous les cas de figure, il y a tous les dégradés.
Est-ce que vous avez constaté une différence, vous, en tant que journaliste, depuis que vous exercez?
Chez les économistes ou chez les journalistes?
Chez les économistes.
Oui,
qui s'expriment dans les médias.
Il y a tous les dégradés. Il y a le conflit d'intérêts totalement assumé d'un professeur d'économie à l'université de Paris 13, Olivier Pastret, qui a longtemps été le propriétaire de l'une des deux banques d'affaires de Tunisie, qui faisait les privatisations du régime de Ben Ali et qui, c'était au micro de France Culture, chantait les louanges du régime de Ben Ali.
Mais c'est pas forcément ad nominem qu'on se pose cette question,
collective. Non, mais j'ai fait une enquête, donc je peux le documenter. C'est pas vous qui assumez mes propos, c'est moi. Voilà. Et puis, il y a parfois la véritable corruption, être des deux côtés. Et puis, il y a par ailleurs... le mainstream, c'est les formes de journalisme non courageux qui suit le courant.
Et donc, alors, il n'y a pas que ça quand même. On peut quand même dire qu'il existe des poches de résistance,
bien
en
sûr.
Tout cas des expressions autres. On va écouter Thomas Guénolé, qui lui assume sa position France Insoumise, dans l'émission d'Europe 1, On de la raconte, du 25 septembre 2017.
Les gens savent, les auditeurs savent, parce qu'on l'affiche, que nous sommes des éditorialistes insoumis.
Oui.
Mais les autres avancent presque tous masqués. On ne sait pas quelle est leur couleur politique, ils ne le disent pas. Et moi je pense que c'est malsain. Je parle des éditorialistes des matinales radio, des émissions télé, des grands journaux, ils sont invités, ils sont chroniqueurs, etc. pour donner une analyse politique. Ils ne sont pas très nombreux, je précise, c'est toujours les mêmes, ils sont une vingtaine, ils vont de plateau en plateau. Et leur problème, à mon avis, c'est d'afficher une fausse neutralité, une fausse impartialité qui est un mensonge. En fait, comme tout le monde, et c'est normal, hein, ils ont obligatoirement des préférences politiques, des partis pris, surtout eux, qui réfléchissent beaucoup sur les questions politiques, ça les prédispose à être politisés, et donc j'insiste là-dessus, pour ceux qui auront encore un doute, et d'ailleurs, les spectateurs s'en rendent bien compte quand ils les écoutent, ils se disent, ils jouent aux devinettes, aucun n'est neutre, aucun n'est impartial. Et c'est normal, un éditorialiste, vous le disiez tout à l'heure, c'est là pour donner son opinion. Donc ils ne peuvent pas, et ils ne doivent pas être neutres. Mais quand ils avancent masqués par rapport à leur couleur politique, moi je pense que ça fausse la sincérité du débat. Donc ce que je propose, c'est bas les masques, ce serait transparent et honnête envers les Français. On a le même problème avec les experts invités, les économistes typiquement, presque tous ceux qui sont sur les plateaux, ils sont pour moins d'État, moins de protection sociale, moins de protection des salariés, c'est vrai. Et ils sont masqués par rapport à leur couleur politique, je ne sais pas ce qu'ils votent. Et beaucoup d'économistes, beaucoup d'experts de plateau, ils se cachent en fait derrière la neutralité du chercheur. Ça a été théorisé, paraît-il, par Max Weber. En France, on prétend qu'il a dit que le chercheur doit rester neutre. Et c'est pour ça que vous l'entendez tout le temps. Sauf que c'est pas vrai. Max Weber, il a seulement dit que le chercheur, il ne doit pas déguiser son opinion politique en science, et c'est ce que beaucoup d'économistes sur les plateaux font.
Nadine Toussaint-Desmoulins, là, ce qu'on entend dans la bouche de Thomas Guénolé, c'est que effectivement, il y aurait une sorte de confusion, et en même temps, le fait de devoir toujours dire d'où l'on parle, c'est une question qui a été posée aussi en matière politique. Est-ce que les journalistes, intervieweurs politiques doivent dire pour qui ils votent avant d'interviewer quelqu'un? Ça pose des tas de questions.
Dire pour qui ils votent, ça me semble
excessif.
C'était
la question qui avait été posée à Alain Duhamel.
Lorsqu'un journaliste ou un expert s'exprime, on sent quand même assez vite sa tendance. Je veux dire, si quelqu'un dit il faut moins de protection sociale, il faut moins d'aide de l'État, il faut... Bon, on comprend qu'il n'est pas tout à fait à l'extrême gauche. Donc, je veux dire, on a quand même, sauf à être complètement idiot, on entend quand même quand quelqu'un parle sa tendance,
ouais,
sans qu'il soit obligé de dire pourquoi il vote.
Vous dites ça aussi parce que vous avez une formation en économie et que peut-être vous pouvez décoder ces critères-là. Laurent Mauduit, est-ce que le fait de dire... Alors Thomas Guénolé, c'est un des exemples d'économistes, en tout cas de politologues, pardon, qui s'expriment.
Oui, je ne sais pas s'il faut le prendre dans la catégorie des économistes.
Non, politologue pour le coup, mais il y a aussi d'autres formes de pensée.
Pardon, je vais vous contrer. Moi, je reviens à mon obsession. La question majeure dans une démocratie, du point de vue des journalistes, au-delà des opinions, c'est de produire des faits. C'est vraiment de produire des faits. Et l'anémie démocratique que l'on vit, c'est que les faits en économie, il y a une corruption de la presse, il y a une corruption des journalistes économiques fortes. Il y a plein de journalistes qui prennent des positions en bourse et l'autorité de tutelle des marchés ne les sanctionne jamais. Mais surtout, le naufrage de la presse française en matière d'économie, c'est d'abord l'abandon de son métier qui est de produire des informations.
Alors, il y a quand même un retour aux data à travers ces nouvelles formes.
Mais le data, ça suffit pas. C'est bien le data pour documenter, mais qui va aller chercher telle irrégularité, tel système de corruption, tel conflit d'intérêts dans la vie des affaires? D'abord, le premier, la presse a d'abord lâché, je le dis avec précaution parce que vous avez raison de dire qu'il y a des poches de résistance, la presse a d'abord lâché sur cette première mission qui est d'informer les citoyens. Elle a secondairement lâché en se laissant emmener dans un courant de pensée mainstream et donc en ne contribuera pas au pluralisme de...
D'ailleurs, dans les poches de résistance, il y a aussi un certain nombre d'économistes qui ne seraient pas mainstream, plus hétérodoxes, qui refusent de plus en plus d'aller dans les médias.
Oui, ah oui. Il y a beaucoup d'économistes de talent. Moi, ça m'est de gauche ou de droite, libéraux ou non libéraux. Je me souviens, moi, je commence à vieillir. Je me souviens de l'ancien patron de l'INSEE, Edmond Malinvaux, qui était un grand savant. Il ne parlait pas, il ne voulait pas parler. Qui connaît les professeurs d'économie du Collège de France? Ils parlent très très peu.
Sauf sur France Culture, ils sont diffusés sur France Culture.
Oui, il y en a certains qui considèrent qu'ils n'ont pas de légitimité à parler quand ils n'ont pas fait une production intellectuelle qui parfois est longue.
Alors l'une des questions, Nadine Toussaint-Demoulin, oui, vous vouliez réagir.
Je voudrais revenir sur le problème de l'enquête et de l'investigation. Alors là, c'est mon côté économie des médias qui intervient. C'est que faire des enquêtes, c'est long,
et c'est cher.
Ça prend du temps et c'est cher. Et c'est pourquoi le journalisme d'investigation est quelque chose qui est très coûteux. Et donc déjà, quand vous regardez les budgets des radios, des télévisions, c'est l'information qui coûte le plus cher et qui rapporte d'ailleurs le moins, puisqu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pendant les journaux télévisés. Donc, faire de l'information, quelle qu'elle soit, économique ou autre...
C'est une volonté. Regardez France Inter, il y a un très bon service d'investigation maintenant qui est remis sur pied. C'est d'abord une question de volonté.
C'est une volonté, mais France Inter est subventionnée par l'État.
Il y a aussi d'autres relais, il y a le consortium international des journalistes qui permet un certain nombre d'enquêtes.
Dans une entreprise médiatique, faire de l'enquête, c'est long, c'est cher et ça rapporte pas beaucoup d'argent.
Alors ça pose une des questions aussi, est-ce que finalement c'est par la modification du système économique des médias que l'on pourrait arriver à plus de pluralisme et à un meilleur traitement des sujets économiques? Est-ce que le fait de financer les médias par les auditeurs seuls, les lecteurs seuls, etc. permettrait un meilleur traitement des questions économiques?
C'est la volonté du Conseil de la Résistance, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Albert Camus qui dit dans Combat, dans plusieurs éditoriaux, il vaut mieux un journal pauvre et libre qu'un journal riche et asservi. Et donc à la Libération, toute la presse se fonde sur des modalités juridiques d'indépendance. C'est ça qu'on a perdu depuis 70 ans. Et donc je pense que l'enjeu majeur de la jeune génération qui vient, c'est de rebâtir une presse libre et indépendante.
Alors il y a ces nouveaux modèles indépendants, donc il y a
qui ont accès directement.
Bon, il y a Mediapart, il y a le Média, il y en a beaucoup. Il y a aussi ce que propose Julia Cagé, par exemple, de proposer une société de médias à but non lucratif.
Oui, c'est pas. Enfin, Julia Cagé n'a fait que reprendre l'idée qui est dans le livre de Schwebel dont on vient de parler, qui était l'idée du premier président de la Société des rédacteurs du Monde. C'est une vieille idée.
C'était il y a 40 ans, que
Mediapart se crée un journal qui appartient à l'équipe. Enfin, en l'occurrence, c'est assis au fondateur, mais nous, on va léguer Mediapart à l'équipe. C'est le vieux principe issu des principes de la Libération.
Tout en ayant un modèle économiquement viable.
Oui, mais le modèle viable est assez simple. Il y a un discrédit majeur qui porte sur la presse. C'est regagner le crédit, regagner la confiance des lecteurs. Et donc, du coup, leur apporter des informations en lesquels ils ont confiance. C'est ça l'enjeu, c'est bien faire son métier. La bonne nouvelle de Mediapart qui a 140 000 abonnés, c'est pas une bonne nouvelle pour Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour toute la presse. Regardez, vous faites bien votre métier.
Donc ça voudrait dire que tout est complètement mêlé entre le système économique en question.
Nous, les lecteurs sont revenus parce qu'ils ont confiance. Et ce que je dis est immodeste, mais ma conviction profonde, et c'est pas à France Culture, vous allez me démentir, ce que nous vivons, parfois, ce n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. Quand on fait bien son travail, les citoyens sont au rendez-vous. Dites-moi le contraire.
Oui, je me permets de mettre un bémol. Je trouve très bien votre suggestion de faire en sorte que la presse soit libre et qu'elle soit indépendante. Personne, je pense, ne peut vouloir le contraire. Mais il faut savoir que l'apport que peuvent apporter les seuls consommateurs, si on exclut la publicité et les aides de l'État dont nous n'avons pas parlé et qui sont quand même importantes, eh bien, ne permet pas, à mon avis, de faire ce qu'on appelait les grands médias populaires. 130 000 ou 140 000 abonnés, c'est très bien pour Mediapart, mais je vous rappelle que François diffusait à plus d'un million d'exemplaires. On n'est plus donc dans ce cas de figure.
Mais ce ne sont plus non plus les aides de l'État qui parviennent à subvenir non plus aux besoins de la plupart de la presse.
Non, mais ça ne parvient pas à subvenir aux besoins. Mais si vous n'aviez pas l'aide de l'État, vous auriez les journaux actuels auraient 20% pratiquement de moins de recettes. Et donc, ils péricliteraient encore plus. Et si vous n'aviez pas l'aide de l'État, c'est pas vraiment de l'aide de l'État quand on pense à ce qui s'appelait dans le temps la redevance et qui ne s'appelle plus la redevance, mais ça revient au même. Si vous n'aviez pas cette obligation de financement, France Télévisions et Radio France n'existeraient peut-être pas.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour.
Bonjour Malice, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai voulu revenir justement sur l'effervescence de ces nouveaux médias qui ne cessent de se créer ces dernières semaines, et notamment dans ce qu'on appelle la presse d'opinion. On a ainsi parlé dans cette émission du lancement très médiatisé et très commenté de Le Média à la rentrée, ce pure player qui revendique son ancrage à gauche et qui rassemble de nombreux proches de la France insoumise, dont l'ancienne responsable de la com de Mélenchon, Sophia Chikirou. Mais de l'autre côté de l'échiquier aussi, se lancent de nouveaux médias qui revendiquent ouvertement un fort ancrage idéologique. Les chroniqueurs politiques Éric Brunet, Gilles-William Golnadel et André Bercoff ont ainsi lancé cet hiver un site d'information appelé La France Libre, rien que ça. Ainsi qu'une web TV portant le même nom et qui revendique vouloir lutter contre le politiquement correct et le camp du bien.
Et alors, que nous dit l'éclosion de tous ces nouveaux médias engagés ?
Eh bien, pour le sociologue des médias Jean-Marie Charon, interviewé par Le Figaro, il s'agit d'une tendance de fond. Selon lui, la fragmentation et la remise en cause des médias mainstream offrent un boulevard à des journaux engagés qui se revendiquent comme tels. Ainsi, alors que la première moitié du XXe siècle avait vu le déclin de la presse d'opinion au profit de journaux revendiquant une plus grande neutralité, on assiste aujourd'hui à un retour du journalisme d'engagement. Les citoyens veulent désormais savoir d'où parlait le journaliste, notamment pour savoir si c'est bien à eux qu'on parle. On peut ainsi considérer que cette fragmentation de l'offre correspond à un morcellement croissant des publics. Ces nouveaux médias s'adressent à un lectorat plus restreint qui compte fidéliser en leur apportant une ligne aussi proche que possible de leurs convictions. À cet égard, le grand chamboule-tout des dernières élections ne semble pas totalement étranger à ce phénomène puisqu'ont émergé à cette occasion de nouvelles forces politiques qui veulent un canal direct pour parler à leurs sympathisants.
Difficile d'imaginer cependant un média par force politique.
Effectivement, mais en réalité, la multiplication des projets éditoriaux n'est pas seulement liée à l'affiliation politique. Il est aussi nécessaire de s'intéresser aux nouveaux usages pour comprendre la création de médias comme 21, AOC, Loopsider et les autres. Toutes ces nouvelles offres ont pour volonté d'offrir un nouveau type d'information plus ciblé et plus approfondi. Comme l'explique Jean-Marie Charon, toujours dans cette interview, le numérique, qui a permis une multiplicité des supports et entraîné une omniprésence de l'information, entraîne aussi une forme de redondance et de superficialité dans les messages passés.
Une évolution qui nous interroge sur l'avenir des médias.
Effectivement, ce sujet de l'omniprésence des médias et de la bataille pour conquérir de nouveaux publics est d'ailleurs au cœur du premier roman de Nicolas Godemet qui s'intitule « La fin des idoles ». Cet ouvrage, écrit par un ancien insider du système médiatique et audiovisuel, nous plonge dans la guerre des télés et les aléas de la société du spectacle, envahie d'écrans et de marques à la conquête de nos désirs et de nos pensées. Dans la société décrite par Nicolas Godemet, on voit s'affronter chantres des neurosciences et psychanalystes autoproclamés pour capter l'attention et le temps de cerveau disponible d'individus passés au crible des nouvelles méthodes de marketing. On y suit une jeune neuroscientifique tentée de libérer le public des manipulations des marques et de les guérir de son addiction aux écrans et de leur obsession pour la célébrité. Cette critique sévère d'un environnement dont il fut l'acteur nous interroge avant tout sur le lien entre citoyens, lecteurs, téléspectateurs d'un univers médiatique en pleine recomposition. Avec l'émergence de ces nouveaux médias, qui revendiquent ouvertement s'adresser à des publics et des individus ciblés, on se demande en réalité si cela ne préfigure pas la guerre des égaux et la guerre pour les égaux, décrite par l'auteur dans La fin des idoles.
Si ça continue, je me taillerai en ocre, je mettrai à ma vue que des gens qui m'adorent, que des gens qui me dévorent, que des gens qui m'évoquent, qu'un beau moi sans effort. Puis j'inscrirai les rues, mon nom en lettres d'or, pour oublier les fûts d'un temps où le dehors, un peu moins m'as-tu vu, n'était qu'un wesh alors, n'était qu'un ouais tu sors, n'était qu'un son de décor. Bétonné d'ordures, moi je rêvais d'ailleurs, je rêvais d'être transfert sur des scènes si pures, ces scènes lueur azur, pour crier mes peines justes, pour créer mes rênes sûres, et puis parfaire mon allure. J'ai donc conçu un plus grand, pour oublier le dur, plus solide que le fainéant, qui est en moi et qui lutte, qui est en moi et qui sûr de soi, bien plus de cran que moi devient un géant tout froid. Je viendrai fou.
Eddie de Pretto, égaux. Merci Nadine Toussaint-Desmoulins et Laurent Mauduit d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle rapidement le nom de vos ouvrages. Nadine Toussaint-Desmoulins, c'est le Que sais-je, l'économie des médias aux presses universitaires de France. Et Laurent Mauduit, ça s'intitule Main basse sur l'information et aussi Les imposteurs de l'économie, réédité également chez Don Quichotte. Vous pouvez réécouter nos émissions autant que vous le voudrez, vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour le débat de la semaine consacré à l'économie, à l'épreuve du pouvoir.
Ma vie plus terne en dehors des réseaux. Et de mes vues j'en ferai des changements d'humeur que je compterai par peur de redevenir inconnu. De...